Amis des ondes, bonjour, bienvenue, amis de Radio Dio, bienvenue aussi. Nous sommes dans l'émission mensuelle du Grémos, du groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, émission mensuelle depuis déjà plusieurs années, et nous allons aujourd'hui aborder comme thématique les relations entre les unions départementales CGT et CFDT de la Loire durant les années 1966 à 1985. Mais au préalable, une annonce importante pour le Grémos, celle des quatrièmes rencontres d'histoire ouvrière. Et je vais donc laisser la parole à Jean-Paul Bentière. C'était Alban Grasieta.
Merci. Alors, ces quatrièmes journées, rencontres d'histoire ouvrière, se dérouleront les 20 et 21 janvier à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, Sacco et Vanzetti, en gros de 8h30 jusqu'à 17h30, jusqu'à 17h le vendredi et de 8h30 à midi le samedi. Alors, ces rencontres porteront sur la période 1885-1925. Dans cette période, on va travailler sur la transformation de la situation des ouvriers dans l'industrie stéphanoise, qui se marque en particulier par la place des femmes, la question de la mobilisation des travailleurs dans l'effort de guerre, et puis les effets de cette mobilisation. Ça, c'est le premier point. On traitera aussi du mouvement social face à la guerre, pendant la guerre et après la guerre, et puis aussi sur la transformation du paysage syndical et politique. En partant des émeutes du Chambon Feugerolles de 1910 à 1911, ce qui me fait dire qu'en fait j'ai précédé, on va partir de la période 1905-1910 en gros. Hein. Avec les émeutes du Chambon Feugerolles de 1910-1911, à l'émergence du communisme en France et dans le bassin stéphanois, en gros au début des années 1920, et puis à cette époque, l'apparition de deux syndicats nouveaux et qui concurrencent plus ou moins la CGT, l'un plutôt que l'autre, la CGTU et puis la CFTC. Voilà, les intervenants seront des historiens géographes stéphanois ou originaires de Saint-Étienne, et le président des rencontres sera monsieur Jean Lorsin. Voilà pour les rencontres. Et donc, on revient à notre sujet d'étude d'aujourd'hui avec Alban.
Voilà. Donc, merci Jean-Paul pour cette introduction. Donc, rappel de ces journées importantes pour la vie du Grémos et pour l'histoire sociale et populaire du bassin stéphanois. Donc, notre discussion d'aujourd'hui avec Jean-Paul va porter, dans la continuité de l'émission précédente que nous avions animée tous les deux, sur le syndicalisme dans le bassin stéphanois dans l'après-Seconde Guerre mondiale, hein, donc dans le second XXe siècle, donc une période très contemporaine, et plus particulièrement dans les années 1966 à 1985. Lors de la précédente émission, nous avions abordé principalement la crise de la CGT et la CGT face à la crise industrielle et sociale du bassin stéphanois. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir un peu plus particulièrement sur les relations qu'ont pu entretenir les unions départementales CGT, donc Confédération Générale du Travail, et CFDT, dans le bassin stéphanois. Il nous a en effet semblé intéressant de revenir sur cette question, notamment aussi à cause de l'actualité récente. Les deux confédérations, et par là les deux unions départementales, ont été en conflit tout au long du quinquennat de François Hollande, particulièrement dans les derniers mois à propos de la loi de travail, alors qu'elles ont connu, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, des périodes, sinon de plein accord, du moins d'unité d'action, dans la période des années 1960 à 1980. On a donc décidé de commencer notre propos à partir de 1966, date où est signé un pacte d'unité d'action entre les deux confédérations, et de terminer notre propos en 1985, à un moment où les deux unions départementales et les syndicats qui appartiennent à ces unions départementales sont en crise et ne pratiquent plus d'unité d'action. Pour faire bref, en remontant rapidement dans le temps, on peut dire que la CGT est donc un syndicat déjà très ancien, anciennement implanté dans le bassin stéphanois. Elle date au niveau national de 1895 et elle a été implantée dans le bassin stéphanois très rapidement. Le bassin stéphanois est d'ailleurs aussi l'un des berceaux du syndicalisme en France. La CFTC, ancêtre de la CFDT, elle était créée en 1919. Donc on aura le temps d'en reparler lors des quatrièmes rencontres d'histoire ouvrière du Grémos. La CFTC qui va évoluer en 1964, pour une partie d'entre elles, la grande majorité, en CFDT. Pour rentrer de plein pied dans notre propos, on peut rappeler que la CGT a longtemps refusé de reconnaître à la CFTC un rôle prépondérant dans le mouvement syndical et a quand même essayé de lui proposer une unité organique d'action à la Libération en 1944. La CFTC a alors refusé.
Unité organique, c'est rentrer à votre place dans la CGT. Hein.
Voilà, c'est qu'en gros, l'unité organique, sous-entendu, vous rentrez tous au sein de la CGT qui devait être le syndicat, l'unique syndicat en France. Les relations étaient très contrastées dans la période 1945 et 1966, avec par exemple le refus de la CFTC de cette union organique, refus de la CFTC aussi de participer aux grèves de 1948, sauf pour les ouvriers mineurs de la Loire. Donc on se rend compte aussi déjà qu'en fonction du syndicalisme, en fonction des industries, en fonction donc des secteurs d'activité, les syndicats peuvent avoir aussi des marges d'autonomie. Il y a eu aussi une refus et une approbation de l'intervention soviétique de la CFTT en Hongrie en 1957, donc une opposition entre les deux confédérations face aux événements internationaux. Par contre, lutte commune durant la guerre d'Algérie, notamment sur la faim, à partir de 1958, entre les deux confédérations. Il y a eu aussi des luttes revendicatives communes, en particulier dans la métallurgie, le secteur prépondérant dans le bassin stéphanois, aussi bien en termes d'effectifs salariés que d'effectifs de syndicalistes. Trois autres points sont à signaler pour la période. Le rapport de force a toujours été très favorable à la CGT, globalement, même si dans certaines entreprises, la CFTT pouvait être en avant. Et d'après les renseignements généraux, l'UDCGT pouvait mettre la CFTT devant le fait accompli grâce à un rapport de force où elle pesait généralement deux fois plus qu'elle. Il y a aussi quelque chose à noter, c'est le lien très fort entre la CGT et le Parti communiste français, alors que la CFTT, de son côté, elle, et à l'intérieur de cette CFTT, l'Union départementale de la Loire, avait une ligne beaucoup plus indépendante, tout en se rapprochant, durant les années 70, du Parti socialiste et du Parti socialiste unifié. Il y a donc une volonté d'unité d'action pour les deux organisations, aussi parce qu'elles sont convaincues que leurs adhérents et les travailleurs leur demandent cette unité. Donc notre propos va se dérouler en trois temps. La période 1966-1969, avec une unité d'action et des divergences dans le mouvement de mai-juin 1968. Dans un deuxième temps, nous aborderons les relations entre ces deux syndicats durant les années 1969-1973. Pour finir notre propos, avec les années 1974-1980, en gros, dans les années 80, avec le poids de la crise industrielle et de la désindustrialisation dans le bassin stéphanois. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Paul et je me permettrai d'intervenir quand il sera nécessaire de le faire.
Bien sûr, pas de problème. Donc la période 1966-1969. Alors, Alban a dit que la CFTC s'était transformée en CFDT en novembre 1964. Et les militants de la transformation de la CFDT attendaient beaucoup de cette déconfessionnalisation. Et les choses ne se passent pas aussi bien qu'ils le pensaient. Et en 1965, la CFDT va être dans une période un peu difficile où elle ne sait pas complètement ce qu'elle fait de cette transformation et où elle ne sait pas complètement comment agir, en particulier face à un patronat et à un gouvernement qui cède pas du tout facilement, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les revendications. Et donc Eugène Descamps, qui est à la tête de la CFDT, va se rallier, il lui faudra un petit peu de temps, il lui faudra une année, pour se rallier à une position de l'Union régionale des Pays de Loire de la CFDT qui disait la solution, c'est de pratiquer l'unité d'action avec la CGT. Et janvier 1966 est signé un pacte d'unité d'action entre les deux confédérations. Elle le propose à Force ouvrière, qui refuse. Donc elles vont se trouver en tête à tête. Alors, je crois que là, bon, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais elles signent ce pacte d'unité d'action en pensant qu'elles seront plus fortes, qu'elles arriveront mieux à mobiliser les travailleurs et donc à faire à obtenir satisfaction des revendications.
Si je peux me permettre, Jean-Paul, juste une intervention pour peut-être préciser aux auditeurs qui ne sont pas très au fait de cette histoire du syndicalisme, que la CFTC, donc Confédération française des travailleurs chrétiens, devient pour une partie d'entre elles la Confédération française démocratique du travail. Donc c'est parce que tu parlais de déconfessionnalisation, donc voilà. En gros, ils ont enlevé les appartenances chrétiennes, catholiques, voilà, que pouvait garder la CFTC. Ce qui ne veut pas dire que la CFTC n'existe plus. Sauf qu'une majorité des syndicats membres de la CFTC va rejoindre ce nouveau syndicalisme issu de la CFTC. Mais il restera toujours en face de la CFDT, une CFTC historique.
D'accord, tout à fait. Tout à fait. Dans la Loire, la CFDT, enfin, la CFTC qui accepte de se transformer en CFTC est très très majoritaire. Bien. Donc revenons à cet accord. Donc cet accord est signé dans l'espoir d'obtenir, de peser plus et d'obtenir plus en ce qui concerne les revendications. Et donc vont se succéder en gros un petit peu plus de 2 ans d'unité d'action. Cette unité d'action prenant la forme, une forme un petit peu stéréotypée, qui est celle de journée d'action. Alors, ces journées d'action sont d'une part des journées de manifestation communes, parfois de grève d'une journée, mais pas toujours. Ça peut être des débrayages plus limités. Et voilà, c'est une forme donc relativement stéréotypée pour l'UDCFDT de la Loire. Après un temps où je ne suis, enfin, où dans mes recherches, je ne suis pas arrivé à saisir très bien comment elle avait accueilli ça. Je n'ai rien trouvé à ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va être très active. Elle va être très active dans les dans ces journées d'action. Les rapports des renseignements généraux ainsi que les notes prises en réunion de bureau montrent que son empressement à participer aux actions, mais aussi son regret sur cette forme stéréotypée dont je vous ai parlé. Elle va faire entendre des critiques, par exemple, contre les fédérations. À certains moments, les fédérations, elles trouvent que les fédérations donc, d'industrie se bougent pas beaucoup. Parfois, elle va trouver que la CGT est trop timorée dans ses modes d'action. Parfois, c'est à la Confédération CFDT qu'elle s'en prend parce qu'elle lui reproche de ne pas être assez active dans la recherche de l'unité d'action avec la CGT. Donc, elle participe en critiquant à certains moments ce qui se passe.
Si je peux me permettre aussi, donc, face à cette attitude de la CFDT, ne pas oublier que la CGT, elle, de son côté, qui est le syndicat majoritaire, est en plein dans cette thématique des journées d'action, en fait son cheval de bataille, et pour elle, pour la CGT, les dirigeants de l'Union départementale CGT de la Loire, et le dirigeant de l'époque, c'est Joseph Sangdols, ces journées d'action sont la mobilisation par excellence. Donc, d'un côté, il y a critique de la CFDT, mais pour la CGT, qui est le syndicat majoritaire, ces journées d'action sont le moyen de mobiliser régulièrement sur des thématiques régulières les travailleurs. L'idée, c'est aussi de les faire se mobiliser ponctuellement pour éviter de faire perdre trop de salaires. Donc c'est aussi l'une des idées de la CGT de l'époque, c'était de dire les salaires dans le bassin stéphanois sont très bas, lancer des grèves à outrance régulières fait perdre de l'argent aux travailleurs, d'où l'idée de ces mobilisations qui ont pour but d'avoir un effet de masse tout simplement, c'est de montrer sporadiquement, de temps en temps, des mobilisations de plus en plus puissantes. Donc on a vraiment là deux visions, deux approches de la mobilisation. Là, on est encore dans les années avant 1968, où on est quand même dans deux traditions. Une tradition qui est en train de se mettre en place à la CFDT, d'un côté, mais du côté de la CGT, on est vraiment dans une approche classique. L'idée, c'est de mobiliser régulièrement les travailleurs et les travailleuses pour les sensibiliser à des thématiques récurrentes, le salaire, la défense de l'emploi, les conditions de travail, etc. Mais on est quand même face à deux attitudes opposées, mais qui se traduisent quand même par... même s'il y a des critiques de la CFDT qui se traduisent quand même par ces journées d'action dans lesquelles la CFDT participe, non pas par défaut, mais participe d'une manière critique, comme tu le dis.
Voilà. Alors, peut-être je rajouterai un mot sur la stratégie de la CGT, sur ces deux différences de stratégie tout à l'heure. Il faut voir qu'au niveau confédéraux, en fait, il va y avoir une lente désagrégation des rapports. Parce que la CGT reproche aussi à certaines fédérations de la CGT des coups de canif dans l'accord, ou bien reproche aussi à la CFDT des critiques venant de militants CFDT. Par exemple, il y a un certain moment dans ces journées stéréotypées, éclate à Caen des manifestations qui sont des manifestations très violentes d'ouvriers et d'étudiants, et un dirigeant de l'Union régionale de Basse-Normandie, dont je ne vais pas retrouver le nom actuellement, produit un article sur ces mobilisations et critiquant le fait que la CGT y ait peu participé. Cet article est publié dans le journal de la CFDT, ce que la CGT prend très très mal. Donc c'est pas seulement avec l'unité de la Loire. Et d'autre part, dans ce rituel bien organisé de ces journées de manifestation, vont éclater à partir de l'hiver 1967, des mouvements qui échappent à ce rituel. Alors, donc j'ai cité le cas de Caen, et puis on illustrera notre propos aujourd'hui par deux chansons de Colette Mani qui sont consacrées à deux mouvements. Un mouvement qui a lieu au chantier naval de Saint-Nazaire, et puis un autre mouvement qui a lieu à la Rodiaceta à Lyon. Alors, Oui. Donc, si je continue, en fait, pour certains historiens, et ces mouvements annoncent peut-être, mais alors ils le disent rétrospectivement, évidemment, annoncent le mouvement de mai-juin 1968. Alors, on peut pas résumer le mouvement de mai-juin 68, bien entendu, dans cette émission-là. On peut dire que on passe directement d'une manifestation correspondant à ce pacte d'unité d'action à un appel lancé par les dirigeants des deux UD à manifester le 10 mai 1968 en soutien aux étudiants matraqués à Paris. Alors, dans la Loire, le mouvement étudiant est faible, le mouvement ouvrier est dominé par la CGT, et les divergences entre les deux UD entre les deux unions départementales vont encore s'accentuer. L'UD-CGT met en avant les revendications contenues dans les accords de janvier 1966 et aussi l'unité de la gauche, un projet d'union de la gauche entre le PCF et la FGDS, et la Fédération des gauches, pardon, démocrates et socialistes, conduite par François Mitterrand. Et l'UDCFDT met en avant le soutien aux étudiants, et puis l'idée du contrôle ouvrier dans les entreprises. C'est-à-dire qu'avec un mouvement pareil, dirait Pierre Héritier, on ne va pas se battre pour 10% d'augmentation. Et en fait, les relations sont mauvaises en mai-juin 1968 entre les deux UD. Il y a très peu de manifestations à Saint-Étienne. Il y a peu de manifestations communes. Il y aura des reproches réciproques. Et à la fin du moment, il y a une grande manifestation de métallurgie où la CFDT essaye de détourner la manifestation vers l'hôtel vers la préfecture où se déroulent les négociations, mais où la CGT est contre. Donc, il y a divergence, et ces divergences vont continuer parce que l'UD-CFDT sort du mouvement en disant le mouvement de mai-juin 68, c'est la première étape d'une révolution culturelle à venir, et avec cette phrase magnifique, mais évidemment dont nous savons maintenant qu'elle était incroyable, jamais plus demain ne sera comme hier. Voilà. Elle veut se battre pour le socialisme et l'autogestion. C'est le combat qu'elle va mener dans les années 1966-1973.
Donc ce qu'on verra tout de suite après une petite pause musicale. Voilà.
Sur le port à Saint-Nazaire, tendu piquet de grève, le journal tombe à 5 heures, le journal tombe à 5 heures, à la une, sur la mer qui n'appartient à personne, à crever la cargaison du Torrey Canyon. Des macareux à bec rouge s'engluent à Trébeurden sur les chantiers à Saint-Nazaire, dressés des grues des hommes tendus, piquets de grève. Défilent les femmes, les enfants. Défilent les femmes, les enfants. Dans la ville, sur la côte de granit rose, tourne le vent, la marée noire, avec filets et bottes de paille, les riverains protègent leur baie, refoulent les nappes. Poussé par le vent du nord-ouest, tourne le vent, la marée rouge, solidaire, les mensuels, les horaires, nos yeux, nos mains, on les donnera pas pour rien. Au 58e jour, à Saint-Nazaire, cordage, les militaires, barrage, les prolétaires, Cérès au mazout, la mer aux oiseaux, les machines aux hommes.
Nous sommes de retour sur l'émission mensuelle du Grémos qui traite aujourd'hui de la question des relations entre les unions départementales CGT et CFDT du bassin stéphanois. Donc nous nous étions arrêtés à la période qui à mai-juin 68 en fait, et là nous allons embrayer sur une nouvelle période, les deux UD dans la lutte de 1969-1973, donc une période assez courte, assez ramassée, dans lesquelles en fait on pourrait peut-être retrouver réellement des signes d'une insubordination ouvrière. C'est vrai que c'est une période très courte, mais durant laquelle il va se passer un certain nombre de choses dans le bassin stéphanois. Donc cette période va en gros correspond tout à fait aux désirs et aux attentes de l'Union départementale CFDT de la Loire. Elle se veut le syndicat des luttes dans le bassin stéphanois à cette époque-ci, ce qui ne veut pas dire que la CGT est en retrait. Au contraire, hein, bien sûr, la CGT est toujours présente, sauf que on est dans la suite de mai-juin 68, on entre de plein pied dans une forme d'insubordination ouvrière, et c'est vrai que l'Union départementale CFDT va peut-être se sentir un peu plus à l'aise durant cette période-là. L'Union départementale CFDT pense que, avec la généralisation des grèves qui va se dérouler durant cette période, pense que les travailleurs vont pouvoir construire des ébauches d'une nouvelle unité d'action dans lesquelles ils seront un peu les maîtres des actions à mener. Ils vont pouvoir développer une conscience de classe et, au final, répondre aux aspirations d'une partie des dirigeants de la CFDT, notamment donc de l'Union départementale CFDT de la Loire, vont pouvoir mettre en avant cette thématique de l'autogestion. Cependant, malgré les désaccords entre les syndicats de l'époque, l'unité d'action restait nécessaire. C'est pourquoi les deux confédérations avaient décidé en 1970 de confronter leurs points de vue et d'en discuter. Elles publièrent toutes les deux une brochure sur leurs positions respectives qu'elles firent parvenir à leurs partenaires sans que cet échange n'entraîne un rapprochement sur le fond. On en revient un peu à la situation des années 60. Hein. Cela n'empêcha pas la signature d'un nouvel accord unitaire le 1er décembre 1970 sur divers objectifs revendicatifs, où là on retrouve les grands classiques: les salaires, la retraite, l'heure mensuelle d'information syndicale, le temps de travail, la lutte pour le plein emploi. Ces deux démarches étaient une illustration de l'union conflictuelle, pour reprendre les propos de Guy Groux et de René Moriot, entre les deux syndicats. Cette union fut, c'est le cas de le dire, conflictuelle, parce que les divergences restaient importantes, n'est-ce pas, Jean-Paul ?
Alors, si c'est moi qui parle, oui. En ce qui concerne la question des salaires, il y avait opposition entre les deux UD. La CFDT veut réduire la hiérarchie des salaires, alors que la CGT, dans son idée de rassembler le plus grand nombre, veut maintenir la hiérarchie des salaires. Alors, à part sur les questions salariales, la CFDT, on va dire, privilégie des réformes tendant à modifier les rapports de travail plutôt que les augmentations salariales. D'autre part, ce que tu disais à propos de l'autogestion, à l'époque, dans la CFDT, il y a un terme qui est employé et on parle d'autogestion des luttes. Et si on regarde dans la Loire, si on regarde ce que les rapports ou les échos racontent des grèves, on voit que la CFDT, l'UDCFDT, a toujours essayé, dans le cas des grèves, de préparer cette grève par des assemblées générales de travailleurs qui décideraient des modalités et des objectifs, alors que la CGT a une conception plus directrice du rôle du syndicat. Et dans les faits, d'ailleurs, le poids de la CGT, le poids respectif des deux organisations, fait que la CGT impose le plus souvent cette conception directive de l'action. Alors, ce n'est pas la peine de revenir sur les journées nationales d'action, puisqu'on en a déjà parlé. La CGT, au contraire, reproche à la CFDT de mener des actions minoritaires et de participer à des actions avec les organisations d'extrême gauche. Et puis enfin, il y a les divergences sur le socialisme. La CGT, à l'époque, considère toujours les pays socialistes comme la référence en termes de socialisme. La CFDT, elle, se prononçant pour un socialisme autogestionnaire. Alors...
Pour revenir sur cette question des luttes et de la stratégie de l'Union départementale CFDT et par là des syndicats CFDT et des relations avec la CGT. Il est vrai qu'en ce début des années 70, dans le bassin stéphanois, vont apparaître un certain nombre de groupes gauchistes, maoïstes, trotskistes, etc., qui restent très minoritaires en termes numériques, mais qui ont quand même une action assez importante, notamment dans la vallée du Gier. Beaucoup plus dans la vallée du Gier que sur la vallée de l'Ondaine, par exemple, et un peu moins sur Saint-Étienne. Et dans cette vallée du Gier, on va voir un certain nombre de conflits dans lesquels vont prendre part des militants maoïstes ou trotskistes, en relation plus ou moins étroite avec des syndicats CFDT, et la CGT, elle, va reprocher justement à la CFDT et va reprocher encore plus à ces militants maoïstes d'être des saboteurs, des briseurs, qui veulent briser l'unité d'action. D'un côté, la CGT regrette de ne pas avoir la main plus que ça sur ces actions-là. Il n'empêche que ces actions restent quand même plutôt minoritaires, même si elles ont un impact important. On peut penser au conflit de 1970 à Creuse-Loire-Saint-Chamond, où là, on va se rendre compte d'un peu de l'ombriglio qu'il peut y avoir au début des années 70 entre le politique, les différents militants, les différentes formes de militantisme, les différentes formes d'action. Mais ce qui est sûr, c'est que la CGT va, dans certaines entreprises et dans certains conflits, va un peu perdre la main par rapport à sa tradition où elle pouvait diriger généralement les conflits du début à la fin. Et là, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation un peu nouvelle pour la CGT, alors que la CFDT va peut-être se sentir un peu plus à l'aise avec ces nouvelles formes d'action. Peut-être un peu plus.
Sans exagérer, parce que puisque tu parlais de la CFL Saint-Chamond en 1970, la CFDT, il semble-t-il, d'après ce que j'ai pu voir, la CFDT se trouve très très embêtée avec une grève qui est lancée par un militant maoïste. Donc c'est pas si simple, mais par exemple, si on prend d'autres exemples, on se rend compte que la CFDT participe au mouvement des travailleurs immigrés sans papier, alors que la CGT n'y participe pas. Si on prend un autre exemple dans les rapports avec ceux qu'on appelait les gauchistes à l'époque, au moment où Pierre Auvernet, militant maoïste, est tué par un vigile chez Renault, les réactions des deux syndicats, des deux UD de la Loire sont très différentes, puisque la CGT fait une campagne contre les gauchistes en disant que les gauchistes sont des agents du pouvoir et du patronat, alors que la CFDT refuse de faire cet amalgame et en fait parle de la répression en général contre les gauchistes et aussi contre les travailleurs, quoi. Voilà. Donc il y a des différences mais ces différences n'empêchent pas la poursuite de l'unité d'action qui est nécessaire.
Complètement. L'unité d'action, c'est vrai que comme ce rapport de force, on le dit depuis le début, est toujours en faveur plus ou moins de la CGT, hein. Globalement, la CGT reste, il suffit de regarder les résultats des élections professionnelles, la CGT va perdre quelques points de temps en temps dans certaines entreprises pour peut-être même les regagner un an ou deux ans après. C'est ça qui est intéressant, il y a quand même une évolution un peu en dents de scie. La CGT reste quand même le syndicat dominant dans le bassin stéphanois et la CFDT, d'un côté, est obligée de prendre en acte cette situation-là. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que souvent, la CFDT, en fait, peut se permettre d'avoir ce rôle peut-être un peu plus critique, justement parce qu'elle est minoritaire, parce qu'elle a moins de militants. Et ça peut permettre aussi, avec en plus cette tradition propre à la CFDT de beaucoup écrire, de beaucoup réfléchir, ça peut aussi expliquer pourquoi il y a ce regard critique un petit peu de la CFDT. Et moi, j'ai envie de dire des fois que la CGT avait peut-être tellement la tête dans le guidon, entre guillemets, elle était majoritaire quasiment dans toutes les entreprises. C'est peut-être beaucoup plus difficile d'avoir une approche autocritique, on va dire, quand on est maître, entre guillemets. Et à l'arrivée, la position de la CFDT, des fois, était un peu plus confortable pour se permettre de critiquer ou d'énoncer des nouvelles formes d'action, de proposer de nouvelles pistes. Ce qui ne veut pas dire que la CFDT n'est pas active, au contraire, hein. Mais moi, c'était une réflexion que je me faisais en ayant étudié la plupart des conflits du bassin stéphanois durant ces années, où cette situation permet aussi justement cette critique ou d'ouvrir des nouvelles perspectives. Ce que la CGT, des fois, n'avait ni dans sa culture, ni forcément le temps de faire. Parce qu'il faut du militant pour pouvoir se permettre de réfléchir, il faut du temps, etc. Et quand on regarde un petit peu la chronologie des conflits dans le bassin stéphanois à cette époque, ils sont tellement nombreux, les militants finalement sont si peu nombreux à l'échelle du bassin stéphanois que ça devait être très difficile à l'époque d'avoir un regard un peu critique sur sa propre action. Ça, c'est des réflexions que je soumets. Hein. Ouais. Certaines luttes comme connurent des succès, hein, ou le connurent plus tard, pour la libération de l'avortement par exemple, ce ne fut pas le cas pour les grandes luttes ouvrières, hein, telles celles de Peugeot. Il y a peu de grandes luttes dans le bassin stéphanois qui peuvent être un exemple d'une action de la CFDT telle que ses orientations dans le bassin stéphanois proposent d'agir.
Il y en a une, je crois, qui est un peu marginale. C'est la grève des nouvelles galeries. C'est la grève des nouvelles galeries où on est vraiment dans une forme d'autogestion des luttes telle que l'UDCFDT le préconisait. Et d'ailleurs, cette lutte a été mise en avant dans une plaquette. Voilà, pour ceux qui... c'est Gérard Vial qui montre dans un film qu'il a fait à ce moment-là à quel point les militants de la CFDT en fait étaient très bien avec cette lutte-là, quoi.
Parce que c'est vrai que dans l'étude des conflits du bassin stéphanois, et c'est un problème de nos sources, c'est un biais des sources, et c'est là qu'on a toujours besoin d'avoir des témoignages, et on espère en faire encore d'autres témoignages, mais on a peu d'informations concrètes sur le fonctionnement des grèves. On sait comment la grève va partir plus ou moins, mais finalement on a peu d'informations sur comment va se dérouler la grève. Et là, ça peut être aussi bien dans des entreprises où la CGT domine que dans des entreprises où la CFDT a une position d'outsider assez importante. Mais finalement, on a peu d'informations sur ce fonctionnement concret des grèves. Et c'est là que le Grémos a toujours besoin d'avoir des témoignages pour pouvoir enrichir un petit peu son approche, parce que le problème, c'est qu'on reste figé avec les archives dont on dispose, c'est-à-dire la presse syndicale, la presse type la Tribune Le Progrès de l'époque, mais qui reprend généralement en plus des appels, des communiqués des syndicats, et les renseignements généraux qui ne s'attachent finalement que très peu aux formes d'action en tant que telles qu'aux résultats ou aux problèmes qui peuvent émerger durant les conflits. Et c'est vrai qu'on a peu d'informations au final sur le fonctionnement concret des comités de grève. C'est quelque chose qui manque. Et peut-être que ça permettrait, si on avait des témoignages beaucoup plus conséquents, d'éclairer une attitude peut-être un peu plus fine des syndicats, et je pense là aussi à la CGT. Peut-être que la CGT, on lui donne cet aspect un petit peu monolithique et dirigiste durant les conflits, mais les témoignages que j'ai pu réunir montrent aussi quand même que les militants de base dans les entreprises avaient une marge de manœuvre, pouvaient contrôler, et la plupart me disent quand même que les ouvriers et les ouvrières faisaient confiance à leurs militants, que ce soit à la CGT ou à la CFDT. Et donc, on a peu de choses concrètes sur comment fonctionnaient ces grèves, malheureusement.
D'où l'intérêt, quand même, effectivement, des quelques témoignages qu'on a. Et en particulier, là, si je reviens encore une fois, parce que tu l'as cité sur la grève à la CFL Saint-Chamond en 1970, on a quelques témoignages qui montrent qu'on ne peut pas dire que la CFDT non plus était toute unie, ça me semble évident maintenant, sur cette autogestion des luttes. Il y avait des décalages, par exemple, entre l'union départementale et l'union régionale de la métallurgie, qui sont évidents, et puis il y avait des décalages entre ce qui se disait à l'union départementale et ce qui se faisait sur le terrain dans certaines entreprises.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, on a une approche assez théorique, mais il y a des hommes et des femmes derrière. Et ces hommes et ces femmes ont leur attitude, leur relationnel avec les autres. Et on sait très bien, et c'est encore le cas aujourd'hui, je pense que chez les militants, les militantes, en fonction de la personnalité de chacun, on a un effet d'entraînement qui est possible ou pas. Il peut y avoir des antinomies, il peut y avoir des sympathies, une certaine aura de rayonnement qui peut permettre de lancer des grèves sur des mots d'ordre ou non, etc. Donc, pas oublier qu'il y a derrière... des approches un peu théoriques sur comment mener les luttes, il y a quand même des hommes et des femmes qui sont derrière et qui, eux, les vivent et les font vivre au quotidien. Et là, c'est vraiment beaucoup plus dur de rentrer à l'intérieur de cette vie-là.
Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des différences culturelles. Je pense qu'à certains moments, c'est plus facile pour certains militants de la CFDT, par exemple, de se lier avec les travailleurs immigrés. Et voilà. Et ce qui m'amène à faire la transition avec la deuxième chanson de Colette Mani sur la Rodia Seta, où en fait, donc il y a eu un conflit en 69-70 où la CFDT a joué un rôle, enfin, où, conflit principalement de travailleurs immigrés, dans lequel la CFDT joue un rôle important.
Le bain, c'est fini maintenant, nos ouvriers ont du temps. À 4h le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodia Seta. Mardi, mercredi, 4h, 12h, jeudi, vendredi, 12h, 20h, samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h, repos jusqu'au jeudi matin. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. Merci, Paune Roulinque, Trust de la chimie, premier groupe financier français, c'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser. Un dimanche sur quatre toute l'année, à la Rodia Seta. Merci, Paune Roulinque, Trust de la chimie, t'as baptisé nos usines avec des noms de fusées, des noms de vins capiteux, Lyon Vaise, Gorge de Loup, Belle Étoile Saint-Fond, Péage de Roussillon. Mais derrière les hauts murs de la Rodia Seta, dans des locaux fermés, éclairés au néon, la lumière la plus proche de celle du soleil, comme dit le patron.
travaille en feu continu, à plus de 30 degrés et 70% d'humidité. On devient tous nerveux. Nos ulcères fleurissent, nos ulcères s'épanouissent à la rodeo.
Un mot pour dire que j'aime beaucoup Colette Mani et que ses chansons me rappellent ma jeunesse et je trouve qu'il y a un démontage dans ses chansons de ce que le patronat disait dans les années d'après 69 dans ce qui a été la contre-offensive idéologique du patronat pour que plus jamais ne se reproduise 1968 dans cette chanson que je trouve très intéressante. Alors on va passer à une période maintenant qui sera beaucoup plus dure, parce que à partir de 1974, la crise économique qui avait déjà produit des effets dans la Loire va se traduire par des restructurations, des fermetures d'entreprises, des licenciements. J'ai le chiffre sous les yeux, le nombre officiel des chômeurs dans la Loire, je dis bien le nombre officiel des chômeurs, va passer de 6435 en décembre 1973 à 25770 en décembre 1979. Ça veut dire que c'est une augmentation de 300% en 6 ans. Et en fait, cette dégradation, on va dire, c'est plus qu'une dégradation, mais cette augmentation brutale va désorienter les militants et je pense aussi les dirigeants des deux unions départementales. Alors, ils y répondirent par des revendications, portant sur la diminution du temps de travail, l'avancement de l'âge de la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, la création d'emplois dans le secteur public, ils créèrent des comités de chômeurs, mais ces revendications, appuyées par des journées de mobilisation qui restent des journées de mobilisation isolées, n'aboutirent pas à un infléchissement de la politique du gouvernement de Raymond Barre. Et l'UDCFDT reprochant encore dans cette période à l'UTCGT de conduire des journées d'action sans suite et de privilégier la victoire électorale des partis du programme commun aux luttes ouvrières. Alors, il me semble que je reviens là-dessus sur quelque chose que tu disais de la stratégie de la CGT. Il me semble que quand même, dans cette répétition des journées, il y a l'idée d'une mobilisation qui permettrait d'aboutir à une prise de conscience amenant les électeurs à voter pour le candidat du programme commun dans cette stratégie-là. Et alors, ce point, j'ai repris un exemple, est illustré, on le voit dans les discours de fin de manifestation. Par exemple, le 24 avril 1975, alors que Roger Bonnevial de l'UDCFDT voit dans la manifestation une occasion de développer des actions de plus en plus nombreuses, Joseph Sangdol, secrétaire du DCGT, dit qu'il faut un changement politique que l'application du programme commun rendra possible. Et en fait, l'UDCFDT minoritaire ne parvint jamais à faire changer la CGT de stratégie. Donc, dans cette situation, les luttes menées en commun dans les entreprises deviennent de plus en plus des luttes défensives contre des licenciements programmés. Bon, on peut prendre le cas de la verrerie BSN de Rive-de-Gier, c'était en 1977, de Manu France qui va se poursuivre au-delà de 1979. On peut prendre aussi le cas de Ma Vie L'Or à l'Orme. Donc à chaque fois des licenciements programmés auxquels les stratégies syndicales n'arrivent pas à empêcher. Oui.
Ouais, d'autant plus que là, ça fait écho à ce qu'on avait dit lors de la dernière émission quant aux stratégies et à l'attitude de la CGT dans le bassin stéphanois, c'est que tout est mis par rapport à un débouché politique à la crise, et d'autant plus que le contexte durant ces années, la fin des années 70, va changer. En 77, le Parti communiste français va exiger donc une renégociation du programme commun qui aboutit en fait à une rupture entre les partis signataires de ce programme commun. suite à leur, et à une défaite en plus en 1978 lors des législatives. Donc ça va entraîner encore plus de déception et de découragement chez certains militants. C'est à cette époque-là qu'on va commencer à voir des militants déchirer leurs cartes de syndicalistes ou de, et ou de militants politiques. Et c'est vrai que cette configuration nouvelle qui apparaît à la fin des années 70, à partir de la, du développement de la crise économique, va questionner profondément les syndicats et les unions départementales sur les stratégies à mettre en avant. En même temps, on peut se demander si les stratégies d'alors ne sont pas des stratégies qui sont encore d'actualité sur la manière d'il faut sauver l'emploi, mais comment, dans un système libéral où dans les entreprises font ce qu'elles veulent dans une certaine mesure. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, cette question de la crise et du débouché politique à une crise va entraîner les syndicalistes dans des réflexions qui vont faire bouger un petit peu leur fondement. C'est ce qu'on va voir notamment au sein de la CFDT, je pense.
D'accord. Et voilà. Alors, c'est très compliqué. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Parce que l'UDCFDT, enfin, la CFDT et l'UDCFDT, faut refaire un petit retour en arrière, s'étaient rapprochés du Parti Socialiste en 1974 dans l'idée qu'il fallait bâtir une grande force politique de gauche qui ne se trouverait pas minoritaire par rapport au PCF comme la CFDT se trouvait minoritaire par rapport à la CGT. Donc c'est ce qu'on a appelé la stratégie des assises du socialisme qui a vu un certain nombre de dirigeants et de militants de la CFDT et de l'UD de la Loire adhérer au Parti Socialiste. Et en fait, ça s'est terminé par un fiasco. C'est-à-dire que les dirigeants de l'UD de la Loire qui rentrent au Parti Socialiste fin 1975 en ressortent à la fin 1976. Eux, ils étaient rentrés au CRS. Il y en a d'autres qui étaient rentrés dans le courant de Michel Rocard. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre les logiques de la CFDT, on va dire logique autogestionnaire de la CFDT, et le fonctionnement du Parti Socialiste, même si le Parti Socialiste essaye de repeindre un peu sa façade en façade autogestionnaire. Et donc, le fait que des élections en fait, se terminent par la défaite de la gauche pour la CFDT, c'est encore plus grave que pour la CGT, puisque la CGT peut encore croire dans le Parti communiste, alors que beaucoup de militants CFDT ne croient pas que le Parti socialiste soit une force de transformation de la société. Ce qui amène Roger Bonnevial, après l'échec des élections de 1978, à écrire dans un éditorial que c'est à la base que pourra se reconstruire l'unité des forces populaires. Ce qui est difficilement croyable. Enfin, peut-être rétrospectivement, mais pour celui qui relit cet article, c'est vraiment... On se demande s'il y croyait lui-même, quoi.
Mais c'est ce qui va quand même engager finalement aussi et pousser un certain nombre de militants CFDT et certaines organisations de la CFDT au recentrage de la fin des années 70.
Alors ça, c'est au niveau confédéral. Alors, moi je pense qu'il y a eu deux recentrages à la fin des années 1970. Il y a eu le premier recentrage de la CFDT qui s'opère au début 1978, et c'est un recentrage dans lequel on dit on a trop été sur la politique. En fait, c'est avant le résultat des élections, mais on voit que ce résultat des élections risque de ne pas être favorable à la gauche. Il faut qu'on se recentre sur notre travail de militant syndical, sur les luttes
dans les entreprises,
sur les grèves. Et je pense que Georges Séguy, à la fin 1978, c'est-à-dire après le résultat des élections, au moment du congrès de Grenoble, quand il dit, il reprend des expressions qui sont très proches de celles de la CFDT en disant « on a trop été dans la politique et on a pu croire que nos revendications, les gens ont pu croire que nos revendications, ça n'était pas des revendications professionnelles, mais des revendications politiques ». Et il me semble que dans les deux cas, il y a un recentrage des deux organisations. Alors, pour Georges Séguy, je suis bien sûr que beaucoup de militants CGT ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais s'ils relisent le discours de Georges Séguy à Grenoble, je pense qu'ils trouveront de quoi réfléchir. Toujours est-il que, effectivement, par rapport à ce que tu dis, les militants des deux organisations se trouvent dans une impasse. Leur stratégie de lutte professionnelle n'empêche pas les licenciements. Leur stratégie politique est marquée par un échec. Alors, il va quand même y avoir quelque chose à noter, c'est que après le congrès de Grenoble de la CGT, dans la Loire et dans la région Rhône-Alpes, il va y avoir des militants CGT et CFDT qui vont se travailler ensemble et qui vont susciter de grandes manifestations sur la fin de 1978, la plus grande manifestation ayant lieu en février 1979, où, selon les chiffres, on parle de 50 000 manifestants. C'est une manifestation très importante, mais qui va se terminer par un clash entre les deux organisations, qui, à ce moment-là, ne voient pas de suite, et divergent sur les façons de continuer à lutter au niveau de la crise de la sidérurgie, au niveau de la lutte pour Manu France, au niveau des luttes dans la Loire. Et on va passer donc à une nouvelle période qu'on a appelée, pour les années 1980-1985, avec Alban.
Voilà, donc la période que j'avais oublié de citer en début, mais c'est vrai que moi j'ai du mal encore à faire cette césure. C'est vrai que c'est très valable pour la CFDT, je pense, la césure de 1979-80. C'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression, à la CGT. Et quoi qu'il en soit, cette période, j'ai l'impression que 74-85, au niveau industriel, il faut quasiment la prendre d'un bloc. Parce que au niveau industriel... on fait fi des questions politiques à ce niveau-là. Hein. Il n'y a pas de considération politique qui va en déterminer les patrons d'entreprise à liquider ou non des emplois. Par contre, ces questions politiques reviennent systématiquement, notamment lors du conflit de Manu France, je pense. Donc pour les années 80-85, il va y avoir une nouvelle direction qui va essayer de redonner une ligne stratégique centrée sur la reconquête des emplois, retrouver le chemin de l'unité d'action avec du DCGT.
Tu veux dire à l'UDCFDT ?
Voilà, à la CFDT, oui. Mais malgré quelques actions menées en commun avec la CGT, notamment sur la sécurité sociale et au niveau des entreprises, par exemple Mavilor ou Manu France, hein, pour parler des grosses entreprises qui ont connu des problèmes à cette époque-là, c'est encore une fois à propos de la lutte contre la fermeture de Manu France que le climat va se détériorer entre les deux unions départementales. Donc l'UDCFDT va faire connaître une position différente sur Manu France, recommandant qu'on regarde de près les investissements à faire pour développer certains secteurs sans vouloir forcément les garder tous. Elle décida par ailleurs de ne pas participer à la grande manifestation nationale organisée à Saint-Étienne avec Georges Marché, qu'elle voit, donc l'UDCFDT, qu'elle voit comme le début de sa campagne présidentielle. Elle préfère considérer la lutte à Manu France comme une lutte à mener parmi d'autres contre le chômage dans la Loire. Et c'est vrai que pour la CGT, la stratégie est un peu différente. Au contraire, Manu France doit être la partie émergée de l'iceberg qui doit mener les autres entreprises en difficulté à continuer le combat. Donc il y a quand même des divergences entre les deux qui apparaissent nettement, sous arrière-pensée politique derrière en plus. Donc cette grande manifestation va être une manifestation CGT Parti communiste au final. L'UGICT, l'UGICT c'est le syndicat des cadres de la CGT, va proposer alors la construction d'une SCOP, hein, dont elle refusa l'administration à la section CFDT, qui avait demandé une construction commune du projet. Donc là, on va voir que la CGT et l'UGICT CGT va prendre en main cette question-là et va écarter directement la CFDT, donc dans une entreprise phare du bassin stéphanois. Et à partir de cette date, les relations entre les deux UD vont devenir de plus en plus mauvaises. Et c'est ce qui va se passer donc dans les années qui vont suivre.
Tu me redonnes la parole.
Oui.
D'accord. Alors, je crois que pour l'élection de François Mitterrand en 81 apparaît aux militants des deux organisations, sans doute plus à la CFDT qu'à la CGT, comme un formidable espoir. Mais en allant vite, cet espoir va être vite déçu parce que la situation de l'emploi va empirer. Elle va susciter une désapprobation croissante. Enfin, la politique suivie par le gouvernement socialiste de Pierre Mauroy va susciter une désapprobation croissante des deux UD. Et pour l'UD de la Loire, une critique de plus en plus dure de la Confédération CFDT qui s'était ralliée en 1981, puis... à François Mitterrand et au gouvernement Mauroy, puis va s'en écarter peu à peu jusqu'à effectuer ce qu'on appelle le deuxième recentrage de la CFDT, dans lequel la direction confédérale de la CFDT abandonne tout rapport avec la gauche, tout rapport avec la politique, abandonne l'autogestion et se situe en syndicat professionnel. Voilà. Mais on va pas. Il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, donc, juste pour dire un mot, c'est que dans cette situation-là, l'UDC-FDT de la Loire va entrer dans une crise générale qui sera encore accentuée par le fait qu'une tentative de stratégie autonome va connaître l'échec, qu'en 1985, il va y avoir deux permanents qui vont entrer en guerre ouverte pour la direction de l'UDC-FDT, et jusqu'en 87, c'est une période complètement noire sur tous les plans, sur le plan du chômage, mais aussi sur le plan interne dans la CFDT de la Loire, sur le plan des relations entre les deux UD qui ne se voient quasiment plus, qui ne font plus rien ensemble. Ça se marque au niveau de Creuse-Loire, par exemple, qui ferme. Creuse-Loire qui va fermer en 1984 par le fait que l'UD n'intervient pas dans la fermeture des sites de Creuse-Loire et que c'est les syndicats de Creuse-Loire qui interviennent, chacun dans leur boîte, pour essayer de... Enfin, je parle pour la CFDT, pour essayer de sauver le maximum d'emplois.
Alors que la CGT, elle va garder la même stratégie que celle qu'elle avait depuis les années 70, au final.
D'accord.
On va conclure peut-être.
Allez, on va conclure.
J'y vais.
Vas-y.
Alors, donc, on voit bien que la Loire avait connu une crise économique dès les années 1950, en fait. Crise économique qui s'est accentuée dans les années 60. Et on se rend bien compte aussi que, finalement, les syndicats de la Loire et la CGT et la CFDT sont obligés de composer aussi avec l'atmosphère industrielle du bassin stéphanois. Et que cette atmosphère va aussi, en grande partie, guider un petit peu leur stratégie. Cette crise économique avait mené les idées, particulièrement celles de la CGT et de la CFDT, à pratiquer l'unité d'action malgré leurs différends. Celle-ci n'arriva pas à endiguer les licenciements, les restructurations et la perte d'emplois dans la Loire, mais à la suite d'un certain nombre de différends locaux et nationaux, la rupture d'unité d'action entre les deux UD va s'ajouter à la crise économique et une crise syndicale, une crise sociale généralisée dans la Loire. Et c'est vrai qu'on se retrouve bien dans les années 1980, dans une configuration complètement différente que celle qu'on pouvait avoir au début des années 1960. Et là, on peut vraiment dire qu'une page se tourne au niveau industriel, politique, syndical et économique dans le bassin stéphanois. Je pense que c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les relations entre les unions départementales CGT et CFDT de la Loire. Et on vous dira donc à bientôt pour une nouvelle émission.
Et merci de votre attention.